ce soir, le coup de pouce au SMIC est-il un luxe ? Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Malgré des signes vraiment encourageants pour l'économie française, les perspectives restent soumises à de nombreux aléas. Voilà les arguments par lesquels la ministre du Travail, Myriam El Khomri, a annoncé ce matin le niveau de la revalorisation du SMIC. Une petite hausse de 0,93% pour un salaire net qui s'élèvera désormais à 1153 euros à compter du 1er janvier 2017. Pas de réelle augmentation donc, puisque les 11 euros gagnés ne permettront que de compenser la hausse du niveau de vie. Alors les réactions ne se sont pas faites attendre, notamment du côté des syndicats, une décision vivement regrettée pour la CFDT, indécente pour la CGT, et d'autant plus difficile à comprendre que chez nos voisins, la tendance est plutôt à la hausse, en Espagne notamment, mais aussi au Royaume-Uni. En France, cependant, la décision de ne pas donner de coup de pouce au SMIC n'était pas une surprise, et il aurait peut-être suffi pour le prédire de se rappeler que la gauche n'a procédé qu'à une seule augmentation du SMIC en 5 ans, c'était à son arrivée en 2012, 0,6%. Un geste symbolique à l'époque, davantage qu'une politique économique. Depuis lors, le gouvernement a choisi de s'en remettre à l'avis du groupe d'experts sur le SMIC, qui ne varie pas. Avec un fort taux de chômage et une faible croissance, l'augmentation du salaire minimum serait trop risquée pour l'économie française. Alors le coup de pouce au SMIC est-il un luxe ? Nous en discutons ce soir avec deux invités. Bertrand Martineau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, spécialiste du marché du travail et des politiques de l'emploi. De 2007 à 2008, vous avez été conseiller social à la présidence de la République et puis vous avez été ensuite délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. Alors vos analyses, vos préconisations en matière de politique de l'emploi, justement, elles se lisent dans « Pour en finir avec le chômage », « Ce qui marche, ce qui ne marche pas ». C'est un livre qui a été réédité chez Fayard et qui est une édition augmentée de « Chômage inversé la courbe » qui avait été publié en 2014 par l'Institut Montaigne. Et puis, je signale votre dernier ouvrage coécrit avec Franck Morel, « Un autre droit du travail est possible, libérer, organiser, protéger ». C'est également chez Fayard en 2016. À vos côtés pour discuter ce soir, Mireille Bruyère, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en sciences économiques à l'Université de Toulouse, Jean Jaurès, chercheuse au CERTOP, c'est le Centre de Recherche et d'Études Travail, Organisation, Pouvoir au CNRS. Et vous êtes également membre des économistes atterrés et vous faites partie aussi du conseil scientifique d'Attaque France. Alors je le disais en introduction, depuis en vérité une dizaine d'années, il n'y a pas vraiment eu de coup de pouce, à part donc cette exception en 2010. Est-ce qu'on peut dire du coup, en 2012, pardon, est-ce qu'on peut dire qu'à droite comme à gauche, il y aurait comme une sorte de consensus pour ne pas donner de coup de pouce au SMIC à chaque revalorisation légale et que ces coups de pouce sont désormais de l'ordre de l'exception, Bertrand Martineau?
Oui, alors je crois qu'on peut effectivement parler de consensus au sein à la fois de la gauche, disons, de gouvernement, entre guillemets, et la droite de gouvernement, entre guillemets. C'est-à-dire ceux qui, de fait, exercent le pouvoir depuis un certain nombre d'années. Effectivement, le dernier coup de pouce, ça doit être 2005 ou 2006. 2012, je corrige un tout petit peu ce que vous avez dit, c'était pas vraiment un coup de pouce, c'était l'avancée de sur 6 mois d'une augmentation du SMIC que le gouvernement a vendu comme un coup de pouce.
Oui, parce qu'il l'a opéré donc en été au lieu de le faire
d'attendre le 1er janvier de l'année suivante. Exactement. Voilà. Donc, de fait, il n'y a pas de coup de pouce parce que en fait, il y a alors je ne vais pas dire un consensus parce que je serai tout de suite contredit, il y a une majorité d'économistes du marché du travail qui considèrent que l'augmentation du SMIC en France participe de la destruction d'emplois peu qualifiés, alors même que la situation des chômeurs, des personnes peu qualifiées dans ce pays est dramatique du point de vue du chômage. Donc, dans une perspective où on privilégie plutôt l'emploi, eh bien, effectivement, la priorité absolue est la lutte contre le chômage, eh bien, il y a effectivement ce consensus des gouvernements sur ce sujet pour éviter les coups de pouce et s'en tenir donc au minimum légal. Ce qu'il faut regarder, c'est que cet arrêt des coups de pouce, c'est une nouveauté si on regarde l'histoire longue, puisqu'il y avait eu des coups de pouce très fréquents depuis la création du SMIC en 70, qui fait que le SMIC avait été en quelque sorte dévoyé. C'est-à-dire, le SMIC en 1970 était conçu comme une sorte de voiture balai ou de filet de sécurité pour le pouvoir d'achat des moins qualifiés. Et il est devenu, en fait, pendant des années, il est devenu, à cause des coups de pouce, il est devenu la véritable locomotive des salaires. Ce qui fait qu'il a écrasé, finalement, d'une certaine manière, sa dynamique a écrasé l'ensemble de la distribution salariale dans ce pays. Et on était arrivé au milieu des années 2000 à une proportion de salariés au SMIC qui était très pathologique, qui était de un peu plus de 16%, ce qui était unique dans les pays occidentaux, ce qui témoignait que le SMIC était trop élevé. Donc en fait, le problème maintenant, c'est qu'on se trouve dans une situation où malheureusement, il faut gérer le stock, c'est-à-dire il faut gérer les erreurs qui ont été faites pendant une quarantaine d'années, enfin 35 ans à peu près sur le SMIC, ce qui amène les gouvernements effectivement à ne plus augmenter le SMIC de manière discrétionnaire.
Alors pour commencer sur ce constat, Mireille Bruyère, est-ce que vous êtes d'accord avec ce premier constat qui est que voilà, depuis une trentaine d'années, enfin une dizaine d'années, le coup de pouce est devenu une exception?
Alors évidemment, je ne peux être que d'accord avec ce constat. Par contre, ce que je dirais par rapport à ce qu'a dit Monsieur Martineau, c'est que effectivement, les économistes en majorité, sont d'accord avec cette analyse. Mais il faut voir que parmi les économistes, il y a quand même des débats. On est minoritaire à penser les choses un peu différentes parce que à la base, on a effectivement des hypothèses théoriques, épistémologique, aussi de compréhension de ce qu'est la science économique ou l'économie, beaucoup plus du côté d'une science sociale. Et donc, on a des analyses qui sont fort divergentes par rapport à celle-là. C'est-à-dire que on analyse, en fait, les dynamiques du salaire et du salaire minimum, beaucoup plus comme au niveau macroéconomique et au niveau des institutions. Et donc, on analyse aussi les effets des évolutions de salaire par rapport, par exemple, à la demande globale, à des phénomènes de bouclage macroéconomique, et donc on a des analyses différentes par rapport à ça. Alors c'est vrai que très malheureusement nous sommes majoritaires dans le champ des économistes, mais ça ne veut pas dire que voilà, très minoritaire pardon dans le champ des économistes, c'est que ça ne veut pas dire qu'effectivement je dirais le consensus des économistes ne veut pas dire que c'est vérité. Voilà, ça c'est la première chose que je voulais dire. Alors après, par rapport au fait que le salaire minimum aurait été dévoyé du fait qu'il est avancé de manière à écraser, hein, je reprends les mots de Monsieur Martineau, à écraser finalement les salaires qui étaient proches du SMIC. Donc il y a un tassement, ça on le constate, un tassement des rémunérations autour du SMIC. Mais moi je regarderai les choses de manière très différente. Je dirais que ce qui s'est passé depuis les années 80, c'est plutôt un affaiblissement des syndicats, un affaiblissement des négociations de branches. Ce qui fait que ce qui était avant de l'ordre d'une diffusion, effectivement, le SMIC avançait, mais il y avait aussi une dynamique à l'intérieur des entreprises pour négocier les salaires, et donc il y avait une progression des salaires assez importante, et ça s'est défait pour plein de raisons macroéconomiques, hein, je dirais, en particulier un rapport défavorable au travail du fait de l'apparition du chômage. Et donc, le SMIC a continué son chemin, je dirais, institutionnel, réglementaire. Mais ce qui a fait qu'il y ait un tassement des rémunérations, c'est parce que, justement, pour les salaires un peu plus élevés, dans les branches, il n'y a pas eu. Il y a eu un rapport défavorable au travail et donc il y a eu un arrêt, je dirais, de la dynamique salariale à partir des années 80. Alors, on le voit concrètement parce que finalement, la part des salaires dans la valeur ajoutée va baisser énormément et donc il y a bien cet effet-là il faut regarder.
Rapport de force défavorable.
Voilà, il faut regarder le salaire par rapport, en fait, à la valeur ajoutée aussi, pas simplement dans sa dynamique propre.
Alors, pour bien comprendre vos positions à tous les deux ce soir sur la question que nous posons, si je simplifie, Mireille Bruyère, vous auriez souhaité que le gouvernement annonce aujourd'hui un coup de pouce, un véritable coup de pouce significatif au SMIC, et vous, Bertrand Martineau, j'imagine du coup que vous saluez plutôt cette décision de s'en tenir à l'inflation ?
Bah, oui, c'est-à-dire que dans la situation du marché du travail d'aujourd'hui, augmenter le coût sur les bas salaires, c'est probablement augmenter les probabilités de chômage entre 1 et 1,5% des personnes concernées. Donc on a estimé, il y a une étude assez précise de Cramart et Philippon, qui est assez connue, qui montre ce qui se passe quand pour les gens qui sont entre la différence entre ceux qui sont directement impactés par la hausse du du SMIC et ceux qui ne sont pas impactés parce qu'ils sont immédiatement au-dessus. Et on montre que un point d'augmentation du SMIC, enfin du coût du travail au niveau du SMIC plus précisément, tend à diminuer l'emploi entre 1 et 1,5% pour ces personnes. C'est des études qui ont été faites également par Pierre Cahuc en 2012. On a cette sensibilité du coût du travail au niveau du SMIC par rapport à l'emploi. La sensibilité de l'emploi par rapport au coût du travail au niveau du SMIC en France qui est très élevée et beaucoup plus que dans les autres pays si on en croit l'OCDE. Alors évidemment, on peut ne pas croire l'OCDE, on peut ne pas croire les meilleurs professeurs d'économie, on peut ne pas croire Jean Tirole, on peut ne pas croire tous ces gens-là. Mais on a quand même de fortes raisons de penser, je ne dis pas une certitude absolue, on n'est pas dans des sciences exactes, et il y a effectivement des économistes dissidents. Mais clairement, il y a quand même un consensus assez fort pour dire qu'une partie du surchômage des peu qualifiés s'explique par le SMIC. Pas la totalité, bien entendu, mais une partie. Et ce n'est pas un service à leur rendre, probablement, que d'utiliser le SMIC. Alors j'ajoute quand même que je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème de la gestion de la demande, de gestion macroéconomique, mais je pense que le SMIC n'est pas un bon instrument pour ça. Le bon instrument, ce sont traditionnellement les politiques budgétaires, les politiques monétaires, la politique fiscale éventuellement, mais le SMIC n'est pas un bon instrument de régulation macroéconomique et c'est même pas non plus un bon instrument de redistribution. Si on veut faire davantage de redistribution dans ce pays, et dans ce cas-là, il faut un modèle social-démocrate à la scandinave qui passe par tout un tas de méthodes, en particulier fiscales. Mais l'augmentation du SMIC, dans le contexte d'un très très fort chômage endémique en France, n'est pas un bon instrument, ça paraît assez évident.
Alors ça, on va y venir, mais simplement sur l'argument que développait Mireille Bruyère il y a un instant, c'est-à-dire que d'expliquer la stagnation du SMIC par un rapport de force défavorable entre force patronale et force syndicale. Qu'est-ce que vous en pensez, Bertrand Martineau ?
On pourrait, si on veut être un peu provocateur, on pourrait dire aussi que la gestion du SMIC des années 70, 80 et 90, c'est-à-dire des coups de pouce discrétionnaires, qui étaient quand même davantage liés au calendrier électoral, il faut bien le dire, qu'à une analyse économique particulièrement fine. Hein, puisque encore, et ça c'est la droite et la gauche d'ailleurs, je me rappelle en 95 Jacques Chirac, supposé plutôt être de droite, a inauguré son quinquennat, son septennat à l'époque, par un coup de pouce important sur le SMIC.
Et pour vous c'était uniquement une mesure électorale, mais il n'y avait sûr. Pas derrière
mais alors,
une
attendez,
politique
regardez sur
longue
période les coups de pouce sur le SMIC et c'est coïncident avec les élections.
Mireille voilà. Bruyère sur cette dimension électorale du coup de pouce.
Alors oui, ça c'est certainement ça peut être un des arguments qui ont fait prendre sa décision aux hommes politiques. Mais déjà, je noterai que on voit bien en Europe que le salaire minimum n'est plus un marqueur politique, c'est-à-dire de droite et de gauche. C'est-à-dire on voit que par exemple en Grande-Bretagne ou en Allemagne, ceux qui soutiennent le salaire minimum ne sont pas obligatoirement les partis politiques de gauche. Donc les choses sont un peu brouillées du fait de l'évolution.
Alors en France, pourtant. Avec la campagne
alors,
présidentielle
en France,
qui s'annonce,
on a une situation un peu particulière où effectivement on a quand même une différenciation droite-gauche assez forte là-dessus.
Pour l'instant, les candidats qui proposent une augmentation du SMIC se trouvent plutôt à gauche.
Tout on a, à fait.
Alors du côté aussi du Front National, hein, une augmentation de 200 euros par personne qui est proposée par Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon lui propose un SMIC net à 1300 euros par mois. Et puis Emmanuel Macron propose aussi une augmentation du SMIC que lui chiffre à 500 euros de plus pour un couple dont chacun des deux membres serait au SMIC. Donc finalement, on a là un échiquier assez large de la politique.
Alors, on est en campagne électorale aussi, si je peux me permettre. Oui. Enfin, je ne sais pas, un élément, enfin, on peut pas, même en étant économiste, on ne peut pas être complètement hors du monde et complètement hors contexte. Il y a quand même une course à l'échalote à toute période électorale. Et d'ailleurs, pourquoi 200 euros seulement? Pourquoi pas 300, 400? Je veux dire, à la limite, pourquoi pas? Vous savez, ce n'est pas du luxe. Hein, le SMIC à temps plein, c'est 1155 euros net par mois. Augmentons-le de 200, 300, 500 euros. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de limite.
Mireille Bruyère, vous disiez à l'international, par contre, le SMIC le salaire minimum a cessé d'être un marqueur.
Oui, enfin, on voit bien, mais ça, c'est lié aussi à, justement à l'évolution de l'emploi et du marché du travail dans les autres pays, qui fait que du fait de la comment dire, du délitement hein, du pouvoir syndical finalement aux mains des, et puis aussi de la difficulté pour les politiques de conduire alors une politique budgétaire, c'est plus possible en Europe, et une politique monétaire c'est disons qu'on voit bien que les politiques monétaires ont des difficultés à relancer la croissance, donc on voit la tentation est assez grande finalement pour les gouvernants de se saisir de cet instrument, c'est un des seuls instruments pour éviter de tomber complètement dans la déflation. On voit par exemple en Grande-Bretagne que la crise a conduit à un effondrement des salaires, enfin étant donné la difficulté des syndicats et l'état de désarmement, je dirais, du monde du travail, pour éviter de tomber complètement dans la déflation, hein, c'est-à-dire un recul des salaires et des prix, les gouvernants se saisissent du salaire minimum pour éviter, on est vraiment à la limite, pour éviter que de tomber dans la déflation. Donc, alors là où peut-être je pourrais rejoindre Monsieur Martineau, c'est qu'on voit, par rapport à ça, on voit bien que le salaire minimum n'est pas le seul instrument. En tout cas, c'est un instrument qui a une efficacité relative. Hein. Donc, si on veut lutter contre la déflation simplement avec le salaire minimum, ça paraît insuffisant. Mais malgré tout, pour des questions d'économie, pour des questions de répartition, pour nous, enfin, en tout cas pour moi, le salaire minimum doit être augmenté. C'est-à-dire ça. Alors, je voudrais ensuite revenir sur un point qui a été soulevé par Monsieur Martineau concernant les études de microéconomie. Donc, qui sont des études qui regardent avec des données individuelles les effets, je dirais, de prix hein, sur les comportements. Alors, ces études sont très intéressantes et certainement très sérieuses. Hein. La question que je voulais, le point que je voulais vraiment éclairer, c'est que elles sont insuffisantes pour comprendre les effets d'une augmentation du salaire minimum, puisque justement, elles ne prennent pas en compte les effets globaux de cette augmentation. Quand évidemment, quand vous regardez que l'effet d'un prix sur un marché, mais donc le salaire sur le marché du travail, si celui-ci augmente, c'est un coût pour l'entreprise et donc on attendrait à une baisse de l'emploi. Mais lorsqu'on augmente le salaire, on a aussi des effets sur la demande, c'est-à-dire que les gens qui sont augmentés vont avoir une demande, une consommation plus importante. Et puis, il y a une deuxième chose aussi importante, c'est que pour un certain nombre d'entreprises, il est possible de faire un effort de salaire. C'est-à-dire que toutes les entreprises ne sont pas, toutes les entreprises ne sont pas dans une situation d'être pile à l'équilibre, je dirais, et que la moindre petite augmentation du prix les met à soit licencier ou à mettre la clé sous la porte. Il y a un certain nombre d'entreprises qui sont en situation de taux de marge, enfin de marge importante, et dont elles ont des marges de manœuvre.
C'est important. Sur le point que vous évoquiez, Bertrand Martineau, est-ce qu'on ne va pas assez loin quand on regarde l'effet du salaire minimum, c'est-à-dire qu'on s'arrête à la barrière hein, que vous avez évoquée, c'est-à-dire un salaire qui serait trop élevé qui empêcherait l'embauche. Est-ce que vous prenez en compte aussi dans vos analyses ce que dit Mireille Bruyère, à savoir un peu anticiper le coût d'après quelque part, c'est-à-dire certes ce salaire va être plus élevé et peut-être un coût pour l'entreprise, mais néanmoins on va pouvoir stimuler la consommation du travailleur en question.
Oui, alors vous avez raison de signaler qu'effectivement, il y a des études microéconomiques, donc par définition, qui ne sont pas bouclées, c'est-à-dire qui ne prennent pas en compte l'ensemble des interactions dans l'économie. Mais vous avez des modèles comme ceux de l'INSEE ou qui sont utilisés aussi par Bercy, qui prennent en compte à la fois le court terme avec tous ces effets de bouclage et le long terme. Donc à court terme, si vous augmentez massivement le SMIC, oui, massivement, hein, donc 10%, 20%, bien sûr, vous allez avoir un effet pouvoir d'achat, donc une relance de la consommation. Bon, au passage, on va surtout creuser les importations. Comme on a vu dans les années 70 ou 80, quand on a fait ce genre de, quand on s'est amusé à ce genre de choses. Donc, en fait, on importe essentiellement des biens de consommation en France. Donc, vous pouvez évidemment, si vous avez une forte augmentation du SMIC, à court terme, vous faites du pouvoir d'achat, vous faites de la consommation, vous relancez un petit peu l'économie, vous faites surtout dégrader la balance commerciale au passage, comme j'ai dit. Donc, ça, c'est incontestable. Il faudrait être évidemment complètement aveugle pour pas le voir. Mais ce qui est non moins incontestable, c'est que vous détruisez aussi de l'emploi à moyen long terme. C'est-à-dire, moyen terme, c'est 2-3 3 ans. Et là, à ce moment-là, les modèles macroéconomiques que je cite prennent ces deux effets en compte. Vous avez un effet de court terme qui est effectivement un peu favorable, beaucoup moins puissant au passage qu'une relance par une politique budgétaire, hein, évidemment, une bonne relance keynésienne à court terme qui peut avoir des effets favorables, à court terme je dis. Et c'est vrai que vous avez une destruction d'emplois assez rapide, parce que la question n'est pas de savoir si l'entreprise peut supporter ou peut pas supporter, mais la clé sous la porte ou pas la clé sous la porte. Bien entendu que beaucoup d'entreprises peuvent supporter une hausse du SMIC de 1, 2, 3%, il n'y a aucun problème, mais ne vont pas mettre la clé sous la porte, simplement elles embaucheront moins, c'est tout, c'est comme ça. Et donc le chômage restera au niveau où on est dans notre pays, mais après tout, notre pays vit très bien, enfin très bien, avec un chômage très très élevé. C'est juste que ceux qui ont le pouvoir ne sont pas des chômeurs, sont plutôt des insiders, et beaucoup de gens dans ce pays ne se préoccupent pas véritablement du sort des chômeurs, et préfèrent avoir des chômeurs finalement que des gens sous-payés, c'est un choix de société.
Mireille Bruyère, le prix de l'augmentation du salaire minimum, c'est un chômage de masse encore très élevé, voire en augmentation?
Alors non, alors il y a plusieurs choses quand même qu'il faut... La situation dans laquelle on est actuellement, c'est d'avoir une situation du marché du travail qui est, je dirais, marquée par les politiques de l'emploi qui ont plusieurs décennies. Alors deux choses importantes à dire. La première, c'est que à partir des années 80, les politiques de l'emploi ont mené, je dirais, une flexibilisation du contrat de travail, donc ont développé, ont donné la possibilité plus grande aux employeurs d'embaucher sur des formes précaires. Donc ça, on connaît bien, hein, CDD, intérim, temps partiel. C'est ce qui conduit à une situation d'avoir un marché du travail relativement segmenté, avec d'un côté une grande précarité, de l'autre encore des emplois relativement stables. Bon, première chose. Et deuxième chose, on a mené une autre grande politique de l'emploi, qui est celle de l'exonération des cotisations patronales sur les bas salaires. Alors, celle-là aussi, elle va avoir, je parle de ça parce qu'elle a un effet sur la question que vous me posez. Quand on a une augmentation du SMIG, on va effectivement être dans une situation où, pour ceux qui sont payés au SMIG, donc pour l'employeur, ça va être plus cher, évidemment, il faut payer le 1, 2, 3% d'augmentation du SMIG, mais pour ceux qui sont proches du SMIG, puisque les exonérations sont calculées par rapport à un niveau de SMIC, eh ben il va y avoir plus de salariés qui vont être éligibles aux exonérations patronales. Et donc, on va avoir une baisse du coût pour l'employeur pour les salaires proches du SMIC. L'un dans l'autre, finalement, quand on fait les calculs, on se rend compte que ça peut avoir, à partir du deuxième jusqu'au sixième décile, hein, des salaires, ça a un effet de baisse du coût du travail pour l'employeur. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut regarder l'ensemble des éléments qui montrent que finalement, quand on augmente une augmentation du SMIC, il y a pas de, on peut, ça s'est chiffré par exemple par l'OFCE, hein, par les études de l'OFCE, une étude de Eric Heyer et Mathieu Plane, par exemple, qui montre qu'effectivement, il n'y a pas de recrudescence du coût du travail pour ça. Alors ça, c'est une première chose. Et puis, je voudrais dire quand même que le débat sur l'effet d'une augmentation du salaire sur l'emploi est un débat très ancien. Il débute au début du XXe siècle aux États-Unis. Hein, les discussions sur le salaire minimum, qui sont des discussions beaucoup moins techniques et économiques à cette époque, sont des discussions politiques et sociales. Peut-on permettre que, finalement, ceux qui travaillent soient dans des conditions de vie indécentes? Dès le début, il y a des débats qui sont de l'effet, évidemment, du SMIC sur l'emploi. Et on ne peut pas dire que le débat soit tranché. Ça, c'est évident.
Bertrand Martineau, sur les effets d'aubaine qui pourraient exister, hein, du fait de l'augmentation du SMIC et avec des charges salariales, des exonérations en charges salariales. Alors, que décrivait
Oui, je veux revenir sur le fait que, quand même, il y a quasiment un consensus parmi les économistes pour justifier l'existence d'un salaire minimum. Donc on n'est pas en train de parler... Le salaire minimum est un élément de régulation du marché du travail qui est très important. Et ça évite notamment un certain dumping social, et ça évite en période de récession, ça évite des effets déflationnistes comme on a pu connaître dans les années 30. Et c'est d'ailleurs à partir des années 30 que cette thématique du salaire minimum est arrivée. Donc le problème n'est pas sur l'existence même d'un salaire minimum.
Mais sur son augmentation.
Mais sur son niveau, d'un point de vue pragmatique, tel qu'est le salaire français aujourd'hui. Si le salaire moyen en France était deux fois supérieur à ce qu'il est aujourd'hui, je serais archi favorable à une hausse du SMIC et je serais le premier à dire que le SMIC n'est pas assez élevé.
Est-ce que le SMIC est trop élevé actuellement en France, Bertrand Martineau?
Il est à 60%. Le SMIC français est à 60% du salaire médian en France. Bon, c'est le plus élevé de l'OCDE. pour prendre comparaison, l'Allemagne est à 8,50. L'Allemagne, c'est 8,50, on peut dire que c'est assez élevé aussi, 8,50 de l'heure. 8,50 euros de l'heure, ben, il se trouve que ce n'est que 50% du salaire médian allemand. Par ailleurs, en Allemagne, vous avez un certain nombre de personnes qui sont exclues du salaire minimum allemand. Et puis, par ailleurs, en Allemagne, vous avez une soupape de sécurité très importante pour les jeunes, qui est l'apprentissage et qui permet aux employeurs allemands de payer les jeunes bien en deçà du SMIC allemand. Bon. Donc, si on veut comparer pays à pays, mettons tout sur la table. On parle de l'augmentation forte du SMIC en Espagne. Je crois que le SMIC espagnol est à 750 euros. Bon, donc, il y a sans doute des marges de progression. Probablement, le salaire minimum espagnol est beaucoup trop bas. Le salaire minimum en Angleterre est de 8,45 euros. De l'heure. Probablement que compte tenu du dynamisme de l'économie britannique ces dernières années, probablement il est sous-calibré. Donc vous voyez, il faut prendre pays par pays. Sur le plan général, l'existence d'un SMIC est plutôt une bonne chose. C'est un bon outil de régulation du marché du travail. Ce n'est pas pour moi un bon outil de redistribution, mais il est important.
Le problème, c'est son niveau. Alors 1153 euros tout de même, avoir un niveau de SMIC plus bas, étant donné le coût de la vie en France, alors que certes qu'il est différent selon les régions où on vit en France. Oui, oui. Est-ce que tout de même, imaginons un SMIC comme vous le dites, c'est-à-dire sur la moyenne de l'OCDE, c'est-à-dire à 50% du salaire médian, on tomberait pas tout simplement ferait tomber beaucoup de travailleurs dans la pauvreté. C'est-à-dire le phénomène qu'on appelle les travailleurs pauvres, des gens qui travaillent à plein temps et pour autant qui n'arrivent pas à sortir de la précarité.
Il faut sérier les choses. Le travailleur pauvre est essentiellement un travailleur, précaire, c'est-à-dire qui enchaîne des CDD qui n'arrivent pas à se stabiliser, premièrement, et donc ça, c'est pas un problème de SMIC. Et puis, deuxièmement, c'est quelqu'un qui travaille à temps partiel, voire très partiel. Donc là, on n'est pas sur le SMIC à temps plein. Donc, il y a des problèmes terribles de pauvreté en France qui existent, il y a des problèmes de précarité, mais on ne peut pas tout mettre sur le dos du SMIC, et on ne peut pas dire qu'on règle ces problèmes par une augmentation du SMIC, d'autant plus qu'une augmentation du SMIC aurait tendance à diminuer le travail de ces personnes, et donc à les plonger davantage dans le chômage et la précarité. Je rappelle que les chômeurs en France sont pauvres. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un dilemme entre salariés pauvres et chômeurs riches. Je rappelle qu'en France, le chômage est, dans une grande proportion des cas, synonyme de pauvreté. Hein? Donc, il faut regarder un peu les choses. Maintenant, si on considère socialement que 1155 euros net par mois est insuffisant, alors c'est peut-être pas vrai pour si on vit à Limoges, c'est différent si on vit dans le centre de Paris. Évidemment, on peut pas vivre avec 1155 euros net par mois dans le centre de Paris, mais on peut vivre dans certaines régions comme ça. Mais si on considère que socialement c'est inacceptable, il y a des instruments qui existent pour ça. Il y a la prime d'activité qu'on pourrait éventuellement augmenter. On peut imaginer de la redistribution fiscale davantage. On peut imaginer tout un tas de choses. On peut imaginer aussi augmenter le temps de travail, parce que je rappelle que les smicards sont quand même les grands dindons de cette horrible farce sinistre des 35 heures, puisque il vaut mieux travailler quand vous êtes payé à l'heure, ce qui est le cas des smicards, il vaut mieux, comme dirait monsieur de la Palice, travailler 39 heures que 35.
Mireille Bruyère, le SMIC n'est peut-être pas le meilleur moyen de lutter contre la pauvreté. Est-ce qu'il faut davantage axer ? C'était d'ailleurs l'argumentation de la ministre du Travail, de dire il vaut mieux jouer sur les baisses d'impôts pour les bas salaires ou sur l'augmentation de la prime d'activité que sur le niveau du SMIC. Vous en pensez quoi ?
Tout à l'heure, Monsieur Martineau a parlé de redistribution, mais justement, il ne s'agit pas de redistribution ici. Le salaire minimum intervient au niveau de la répartition primaire. Et c'est pas du tout la même chose. Et à mon avis, en termes d'économie politique, en termes politiques, les choses sont pas les mêmes. Tout à l'heure, j'ai expliqué que il y avait une baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée. Ça, c'est la répartition primaire. Et à mon avis, c'est là-dessus qu'il faut intervenir. Et donc, le salaire minimum intervient sur la répartition primaire. Après, la redistribution, non pas qu'elle n'est pas utile, bien sûr que la redistribution est utile via les impôts, via les prestations, mais il faut bien voir qu'on ne peut pas récupérer par la redistribution des inégalités dans la répartition primaire trop importantes. Il faut intervenir dans la répartition primaire. Alors là où je suis d'accord, c'est qu'évidemment, le salaire minimum ne peut pas être l'alpha et l'oméga de cette nouvelle répartition primaire. Hein. J'ai insisté tout à l'heure sur la présence, évidemment, le rapport de force entre travail et capital, sur le fait qu'il y a un délitement syndical dans les grandes entreprises, le fait qu'il y a une fragmentation aussi des chaînes de valeur. On a les grandes entreprises qui dominent beaucoup les petites, et donc il faut, je veux dire, une vraie politique de l'emploi. C'est aussi travailler travailler à ces niveaux-là, c'est-à-dire essayer d'encadrer beaucoup plus les relations inter-entreprises, sous-traitants, franchisés, etc., pour éviter que les grandes entreprises aspirent la valeur ajoutée. Et donc, les petites entreprises se trouvent dans des situations absolument de très très forte pression et ne peuvent ni investir, ni former leurs salariés, ni payer correctement leurs salariés. Donc ça, c'est des choses importantes sur lesquelles on peut aussi travailler pour permettre, justement, qu'il y ait une évolution non seulement du SMIC, mais aussi de tous les salaires. C'est-à-dire que l'échelle des salaires puisse progresser de manière beaucoup plus dynamique que les 20 ans qui viennent de passer.
France Culture, du grain à moudre.
Mélanie Chalandon.
Le coup de pouce au SMIC est-il un luxe? C'est la question dont nous débattons ce soir jusqu'à 19h avec Bertrand Martineau et Mireille Bruyère. Bertrand Martineau, quelles seraient finalement les conditions idéales pour augmenter le SMIC? Puisqu'on a vu ce soir que ni l'un ni l'autre vous êtes contre l'existence d'un salaire minimum. La question est de savoir quel est son niveau. Et bien justement, quelles seraient les conditions, on va dire, en France pour enfin avoir des coups de pouce au SMIC tous les 1er janvier?
C'est très simple, il suffirait que le chômage soit à peu près au niveau du plein emploi, entre 5 et 6%, et là on pourrait considérer qu'on a des marges de manœuvre d'augmentation du SMIC. Mais tant qu'on a un chômage de masse, particulièrement d'ailleurs sur les peu qualifiés, les jeunes peu qualifiés aussi, on a ce dilemme clairement entre SMIC et chômage. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que le SMIC explique la totalité de très loin, les 9,5% et quelques de chômage. Et je rappelle qu'on a 9% de taux de chômage en moyenne depuis 30 ans. Je ne suis pas en train de dire que le SMIC explique tout. Je dis juste qu'il faut regarder, c'est ce que font les autres pays, l'Allemagne ou l'Angleterre ont décidé d'augmenter très fortement le SMIC, parce qu'ils sont en situation de plein emploi, voire de surchauffe.
Alors justement, je voulais vous faire écouter ce reportage diffusé sur France 2 le 31 mars 2016.
Londres n'en revient pas. Voici que s'annonce la plus grosse augmentation de l'histoire récente, plus 7,5% d'un seul coup pour 2 millions de travailleurs au SMIC. Dans la restauration, les principaux intéressés ont encore du mal à y croire. Les salariés sont contents et surprises, le patron aussi. Son établissement marche bien, cet après-midi encore pas une table de libre. Il voit plus loin, si tout le monde est augmenté, ça lui fera plus de clients potentiels.
Ce n'est pas vraiment un gros souci dans la mesure où tout le monde gagnera plus d'argent. Il y aura plus de gens qui dépenseront plus aussi, donc ça ne nous gêne pas trop.
Le bémol, c'est que le coût de la vie à Londres est tel qu'une heure de travail, c'est à peine le prix de 2 tickets de métro. Pour les syndicats, il va en falloir des coups de pouce comme celui-là. Le gouvernement conservateur en convient. L'augmentation 2016 est en principe la première d'un plan qui doit booster les salaires minimums de 40% en 5 ans.
Donc le coup de pouce au SMIC qui apparaît, on le voit au Royaume-Uni, comme finalement la cerise sur le gâteau quand tous les indicateurs sont au vert, Mireille Bruyère.
Alors, je ne sais pas si tous les indicateurs sont vraiment ouverts en Allemagne et au Royaume-Uni. Ce qu'il faut quand même pas oublier, que ce qui pousse les gouvernants à prendre cette décision, c'est qu'on a des grandes, grandes inégalités salariales et que à des niveaux jamais égalés depuis de très, très nombreuses années, de nombreuses décennies. Et donc, c'est ce que je le disais tout à l'heure, c'est aussi pour éviter la déflation, mais aussi des situations criantes avec des risques de, je dirais, de crise sociale. On voit les appels à l'extrême droite quand les inégalités augmentent. Donc, je ne pense pas que le contexte politique soit les indicateurs économiques sont au vert, donc on augmente le salaire. Je pense qu'au contraire, les indicateurs économiques et sociaux sont pour beaucoup au rouge, et donc on essaye d'éviter, l'explosion sociale en augmentant le salaire minimum. Je verrais ça beaucoup plus comme ça. La situation en France est un peu moins catastrophique, puisque du fait, effectivement, des institutions du travail en général, la protection sociale, des prestations sociales, etc., on a encore des inégalités moindres, même si on prend le même chemin d'augmentation des inégalités. Là, les travaux de Piketty l'ont bien montré, et même de Camille Landais, par exemple, sur la France, on voit que la France aussi, en termes d'inégalité salariale, en commençant plus tard, mais a des augmentations importantes. Et d'ailleurs, un des éléments aussi qu'il faudrait prendre en considération, c'est aussi la limitation des très très hauts salaires. Mais ça, c'est pour donner de la marge de manœuvre aux entreprises pour pouvoir payer correctement les salariés. C'est peut-être aussi d'éviter des écarts de salaire dans les entreprises trop criants, comme c'est le cas dans des grandes entreprises, par exemple.
Alors, je demandais tout à l'heure à Bertrand Martineau quelles étaient selon lui les conditions idéales pour pouvoir augmenter le salaire minimum. Je voulais vous demander à vous quel serait le niveau de salaire minimum idéal.
Alors, ça c'est une question politique, c'est-à-dire que l'économie, en tant que, je dirais, connaissance, ne permet pas de décider quel est le niveau comme une mécanique.
Ce serait une régulation trop dure ou trop directe de l'État sur le marché du
travail. Non, mais quand on voit la dynamique, quand on voit la dynamique du salaire minimum actuellement, je dirais que même les propositions de Mélenchon sont tout à fait atteignables, dans le sens où
1300 euros net. Hein,
voilà,
pour Mélenchon.
On est à 1153, vous avez dit, si je me rappelle bien. On voit bien que c'est même les propositions dites plus à gauche sont à portée de main. Donc voilà, ça c'est une indication. Il me semble que c'est tout à fait envisageable un salaire net à 1300 euros, tout à fait envisageable.
Bertrand Martineau.
Mais enfin, si les entreprises font trop de profits, à la limite, taxons les profits. Le problème du SMIC, c'est que si vous augmentez le SMIC, vous allez augmenter le SMIC dans toutes les entreprises, dans celles qui effectivement peuvent le supporter et dans celles qui ne peuvent pas le supporter. Donc si vous avez un problème, si vous trouvez que les profits en France ne sont pas assez taxés, bah, taxez les entreprises qui font du profit. Il se trouve que malheureusement, on a les taux de prélèvement sur le capital qui sont parmi les plus élevés du monde, donc mauvaise pioche. Mais à la limite, je pourrais comprendre qu'on aille vers ça. Mais encore une fois, le SMIC n'est pas un bon outil parce qu'il détruit de l'emploi dans un contexte où un des problèmes du pays, et peut-être le problème numéro un, c'est quand même le niveau du chômage.
Alors, il y a une autre question qui apparaît régulièrement dans le débat public, c'est l'idée d'instaurer un SMIC pour les jeunes, c'est-à-dire un SMIC à taux variable, en fonction de l'âge. Bertrand Martineau, pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Pourquoi est-ce que à chaque fois que la proposition arrive sur la table, le SMIC jeune est rejeté?
Alors là, on n'est plus dans l'économie, on n'est même plus dans la politique, on est dans la psychologie. Hein. Si effectivement il y a des personnes en France pour lesquelles le SMIC pose un problème, c'est effectivement les jeunes, en particulier les jeunes peu qualifiés, parce que non seulement ils sont sortis du système scolaire souvent sans être capables de travailler dans l'entreprise, et deuxièmement parce que par définition ils ont peu d'expérience, donc une productivité plus faible que leurs aînés. Donc s'il y a bien des gens en France, je rappelle que le taux de chômage des jeunes est de 24%, s'il y a bien des jeunes en France qui subissent le problème du SMIC, c'est bien les jeunes. Ça, c'est ce que vous dira à peu près n'importe quel économiste. Le problème, c'est que là, vous vous heurtez à des tabous qui sont... le risque, à mon avis, c'est plutôt les adultes, en fait, qui ont un problème. C'est que diminuer le SMIC, le niveau du SMIC pour les jeunes, ce qui existe dans pratiquement tous les pays, c'est-à-dire tous les pays dont on parle, là, à l'exception de l'Allemagne, mais qui développe énormément l'apprentissage, ils ont des SMIC différenciés selon l'âge. Selon vous avez 16 ans, 18 ans, 20 ans, en général, vous avez plusieurs niveaux de SMIC. En France, il semblerait que politiquement ce soit impossible parce que probablement les salariés adultes, en fait, auraient peur de la concurrence que leur feraient des jeunes qui seraient payés en dessous du SMIC, disons, de droit commun. Moi, ce que je propose dans mes ouvrages, c'est qu'on trouve des deals, peut-être par branche, pour que, par exemple, en échange d'un CDI, un jeune puisse travailler à 80% du SMIC, au moins dans certaines régions. Et puis, si c'est une proposition qui est absolument inaudible, et ben faisons une expérimentation. Prenons 10 ou 15 bassins d'emploi particulièrement sinistrés pour les jeunes et faisons cette expérience. Offrons la possibilité de travailler à 80-85%, je ne sais pas, du SMIC, à supposer que ce soit un travail à durée, à temps plein et en CDI. Et regardons ce qui se passe sur ce bassin d'emploi et puis on ramasse les copies. 2-3 ans après, on met quelques bons économistes ou statisticiens sur le coup de diverses obédiences et puis on regarde ce qui s'est passé.
Mireille Bruyère, sur cette question d'un SMIC différencié pour les jeunes, est-ce que vous seriez prête, par exemple, à participer à des expérimentations comme vient de le suggérer Bertrand Martineau sur cette question?
Alors, oui, je crois qu'en France, effectivement, le salaire minimum et justement les conflits qu'il y a eu autour du SMIC jeune montrent qu'au-delà de la question dite économique, même, je ne sais pas si on peut vraiment séparer ça de la politique, au-delà de ça, on voit bien que c'est une norme qu'on pense devoir être partagée par tout le monde. Il ne peut pas y avoir de poids, de mesure en fonction de l'âge. Alors, ce qui pousse certains économistes à militer pour un SMIC économique jeune, c'est de supposer que les jeunes auraient une productivité moins grande. Alors évidemment, les jeunes sont moins formés, ont moins d'expérience que leurs aînés, ça c'est évident, mais il faut rappeler quand même que la productivité est une mesure qui ne se mesure qu'au niveau collectif. La productivité, ce n'est pas la productivité individuelle n'existe pas. Hein, c'est une conception théorique qui n'existe pas. Et donc, je veux dire, un jeune qui est intégré dans une entreprise, très très bien intégré, même s'il n'a pas les compétences, s'il n'a pas les diplômes, et le collectif de travail fonctionne bien, etc., ça peut être très intéressant pour l'employeur. Alors qu'un jeune très diplômé dans un collectif, par exemple, en mauvaise qualité, peut être un mauvais recrutement.
Donc le SMIC jeune, vous serez contre.
Voilà, et bien, absolument.
Eh bien, débat à suivre. Merci beaucoup à tous les deux d'y avoir participé. Merci Bertrand Martineau. Je rappelle, pour en finir avec le chômage, ce qui marche, ce qui ne marche pas chez Fayard en 2015. Et puis, un autre droit du travail est possible, libéré, organisé, protégé chez Fayard également en 2016. Merci également à vous, Mireille Bruyère, maître de conférence en sciences économiques à l'Université de Toulouse, Jean Jaurès. Demain, nous nous intéresserons à la situation de l'Arctique et de l'Antarctique. Faut-il revoir la protection des pôles à l'aune du réchauffement climatique? Réécoute, podcast, commentaire. C'est sur franceculture.fr, sur la page du Grain à Moudre. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre fil Twitter. Du Grain à Moudre, une émission préparée par Céline Leclerc, Cyril Baer, Fanny Richet et Isulte Sicard. Réalisation Anne-Laure Chanel.